Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Culture en Vrac. Nous sommes sur Bac FM et comme chaque mercredi, nous allons pouvoir étudier scrupuleusement ce qui se présente à nous. Vous savez qu'en cette période de vacances de février qui s'approche à grands pas, la programmation de la Maison de la Culture va se mettre un petit peu en retrait, mais avec notamment, vous le savez, la résidence du spectacle Village des Sourds, le texte de Léonore Confino, dont on reparlera bien sûr lors de sa première le 21 février. Et ça nous laisse aussi l'occasion bien sûr d'aborder des sujets qui sont aussi partie intégrante du projet artistique de la maison. Et là, il s'agit en l'occurrence, bien sûr, du volet des expositions, avec notamment tout ce qui nous rend visite, en tout cas en termes d'œuvres d'art graphique, photos, de tout ce que vous voulez, et notamment mise en lumière et imaginée, concoctée par Christophe Voutz, commissaire des expos à la maison, qui est présent ce matin, comme d'ailleurs les artistes que nous allons ensuite vous présenter, les quatre artistes de cette exposition, un film poésie de l'invisible. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Cette exposition, elle est déjà en place depuis maintenant une petite semaine.
Oui,
en l'occurrence,
près.
Voilà, puisque le vernissage a lieu le 24 janvier dernier, et on a eu l'occasion, de commencer à découvrir toutes les œuvres présentées par les quatre artistes avec des horizons différents, mais des artistes qui sont notamment attachés, on va dire, au tissu local, en tout cas, qui sont proches de nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont tous présents, qu'ils ont répondu notamment à cette invitation. Donc, c'est un petit peu le mot d'ordre d'ailleurs de cette saison d'exposition.
Oui, c'est vraiment un thème que j'ai vraiment voulu développer sur toute la saison, puisqu'on avait commencé une exposition sur la compagnie TCF de Jean-Luc Revol, et donc où on mettait en évidence toute l'histoire de cette compagnie, ses costumes, ses décors, etc. Alors ici, l'expo infime, et ce sera également le cas pour l'expo suivante qui s'appelle Estampes Stampare, avec où on présentera une collection d'estampes tout droit issues de la collection de la médiathèque Jean Jaurès, qui est une collection plus que fabuleuse, qui détient 6000 pièces, et on va en présenter une bonne centaine, je crois.
Des artistes de talent, on en a beaucoup sous le pied, en tout cas dans notre belle région, et on est ravis, en tout cas, de les mettre en valeur.
Oui, c'est vraiment le but, en fait, parce que je trouve que c'est très sympa toujours de montrer, évidemment, des travaux, des œuvres qui viennent de partout, d'ailleurs, mais il est extrêmement important de mettre aussi, à un moment donné, un coup de projecteur, un coup de loupe sur les merveilles qui sont tout près.
Exactement. Les merveilles, en tout cas, on a pu les découvrir. Moi, j'ai pu les découvrir, et c'est vrai que une exposition avec des œuvres diverses et variées, avec, je pense, aussi des visions de l'art diverses et variées, j'ai découvert en effet des très très belles choses sur cette exposition. On va donc faire un tour d'horizon de cette exposition, et notamment des quatre artistes qui sont à partir de cette expo. L'idée générale aussi, l'infime poésie de l'invisible, c'est notamment une thématique assez particulière.
Oui, voilà. Parce que, en fait, la thématique est venue de la rencontre, de la connaissance, en fait, des travaux des artistes qu'on présente. Et c'est le point commun, en fait, de tous les travaux. Et l'infime, finalement, c'est montrer ce qui est petit, ce qui peut paraître n'être pas important, ce qui est caché, ce qui est au-delà de l'évidence. Et tous les artistes présents à leur manière, parce que tous travaillent dans des disciplines différentes, mettent l'accent sur ce point particulier.
On va commencer notamment le petit tour d'horizon de nos artistes avec celle, en tout cas, qui n'est pas présente dans nos locaux, dans les studios, mais qui est présente au téléphone, et on la remercie d'ailleurs d'avoir répondu aussi à cette invitation. C'est Christine Vadreau, notamment peintre, que l'on a théoriquement à l'antenne. Christine, est-ce que vous nous entendez?
Donc nous avons commencé à présenter en l'occurrence cette exposition, et puis on fera un tour des autres qui sont là dans le bureau et qui dans le studio et qui vous passent le bonjour par la même occasion. On commence par vous en l'occurrence, parce que c'est plus simple aussi en termes de technique, notamment de découvrir les choses qui vous motivent, qui vous passionnent au travers de votre art qui est donc la peinture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Alors, peut-être pas une bio complète de votre parcours, mais qu'est-ce qui vous engage dans cet art qui est le vôtre?
Alors, ce qui m'engage, c'est un souci de développer à long terme quelque chose qui me semble en même temps complètement liée à l'actualité et complètement liée à une résonance intérieure.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je poursuis depuis une trentaine d'années, cette recherche pas à pas voilà, autour de mon travail de peinture. Alors, il y a eu beaucoup de différentes périodes et puis aussi est présent dans cette exposition plusieurs types de travail. Voilà.
On a remarqué notamment, alors on sait de par votre parcours que la musique a été aussi est une part importante de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît de manière indéniable et automatique dans vos œuvres ou pas?
Oui, c'est surtout l'histoire du rythme, mais surtout le rapport au rythme et à voilà principalement, et puis peut-être en rapport aussi avec l'idée de fluidité.
Vous avez réalisé un certain nombre d'expositions, parce que vous avez en effet un passé assez riche dans ce domaine. Est-ce qu'il y a certaines résidences ou certaines expositions qui vous ont plus marqué l'une que l'autre?
Alors, résidence, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps en résidence à la Vie des Formes, à Chalon-sur-Saulce. Mmh. C'est un lieu qui n'existe plus actuellement, puisque les fondateurs, c'était Marc Bissouvero et Marcel Ebrard. Et ce lieu s'est arrêté en 2005, à peu près, suite à pas mal de problèmes. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai travaillé dans ce lieu et j'ai réalisé une œuvre monumentale comme un labyrinthe.
Mmh.
Oui. Donc sur à peu près 100 mètres carrés, ça faisait une vingtaine de mètres de parcours. J'ai réalisé une fresque à l'intérieur d'un labyrinthe. C'est vraiment un travail sur justement ce qui est caché.
Mmh. Ici, d'accord.
Qui n'est pas visible directement. Alors c'est vraiment peut-être un point, le point commun entre tout, le fil conducteur dans ma recherche, c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure, qui n'est pas forcément lisible du premier coup d'œil.
Très bien. Dans cette exposition, vous devez du coup partager l'espace. Nous avons parlé justement de cette importance forte, notamment de ces œuvres dont vous parliez il y a un instant. Là, vous devez partager justement l'espace avec trois autres artistes. Alors, sur des esthétiques différentes de la vôtre, qu'est-ce que, en ayant découvert justement ces univers différents, qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, de votre côté, par rapport à ce que vous avez pu présenter? On a découvert, nous, des œuvres, en tout cas, vous concernant, avec des tout petits fragments, notamment de toutes les couleurs et qui représentent
des miettes
qui sont vraiment assez étonnantes à découvrir. Et donc la résonance avec les autres artistes, qu'est-ce que ça vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez ressenti en fait?
Ben, je trouve que l'exposition est vraiment bien, fonctionne très très bien. Il y a vraiment des résonances entre les œuvres, même des œuvres de personnes différentes. Effectivement, on ressent aussi bien par rapport aux mots, par rapport aux objets qui sont représentés dans les photos, dans les images, où on a ce rapport à un petit détail, à quelque chose qui va être sur lequel on pourrait glisser, le regard pourrait glisser normalement dans la vie réelle, mais c'est vrai que l'exposition montre vraiment cette prise l'accent, où on met l'accent sur des choses qui normalement ne sont pas vraiment visibles du premier abord.
Mais c'est vrai que le fait de faire réagir en fait les œuvres par rapport les unes par rapport aux autres, c'est vraiment un travail, mon travail en fait du commissaire d'expo, ça fait que les artistes ils sont pris en otage là-dessus, ils ont découvert en fait l'ensemble de ce que j'ai un peu construit le jour du montage, enfin je pense, Christine, non?
Oui.
Donc c'est un peu voilà. En fait, je suis très curieux en fait de voir comment les uns et les autres ont découvert finalement chez les autres ce que j'avais deviné chez eux.
Oui, à la fois ce rapport à des formes qui sont pas forcément des tableaux, qui sont pas forcément en deux dimensions, c'est-à-dire par exemple chez
Guy Machuro.
Chez Guy Machuro. hein, où finalement il y a un déroulement aussi, bien ce rapport au rouleau là qui finalement contient une multitude d'aspects de grains, de matière, de terre, etc. Donc c'est vrai, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une résonance aussi par rapport à ça. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément visible d'un seul coup, mais qui contient, qui est un, voilà, qui est potentiellement très, très chargé. Voilà.
On va dire que l'invisible, finalement, c'est ce qu'on ne peut quelquefois pas voir ou plus voir, mais c'est aussi ce qu'on peut quelque part ressentir d'ailleurs. L'invisible, il se sent peut-être dans le rapport que le public va avoir en voyant toutes ses œuvres et en ressentant les émotions diverses et variées. On peut aussi considérer comme ça.
Oui.
Écoutez, ben merci beaucoup parce que du coup ça nous a permis notamment d'avoir une petite idée supplémentaire de ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a une œuvre vous qui vous parle plus là dans l'exposition qui est en place? Est-ce qu'il y en a une vraiment alors de chez vous ou enfin de votre œuvre ou alors des autres? Est-ce qu'il y en a une qui vous interroge ou qui vous marque?
Alors j'ai bien aimé en ce qui concerne Machoro, j'ai bien aimé son tourbillon, sa forme tourbillonnaire là, en plein milieu des autres œuvres, je trouve qu'elle a une très grande force voilà, dans l'espace.
Ah oui, il faudrait peut-être que Guy, tu nous en parles un petit peu de cette œuvre-là, parce que comme ça, c'est une espèce de tornade, en fait, en cellophane, en fait, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est une tornade qui est faite en polystyrène extrudé, et puis qui est recouverte de cellophane, de film étirable. En fait, comme la plupart des pièces qui sont montrées là dans un film, c'était toujours des accidents. C'était jamais prémédité. En fait, ça s'est passé le soir du 26 décembre 1999, alors que dans les soirées parisiennes, à l'époque j'habitais à Paris, on buvait de la tequila et on rentrait toujours après des bonnes soirées. Moi, je me suis trouvé pris dans la tempête, la grosse tempête, alors qu'on attendait le Big Bug. Mmh. Et finalement, je me suis retrouvé la nuit dans Paris avec un vent à 170 km/h. Et donc, quand je suis rentré dans mon atelier, il y avait un gros courant d'air, tout s'est envolé, tout s'est cassé. Donc, j'avais des gros panneaux de polystyrène et puis
Ça
s'est matérialisé comme ça, finalement. Ça a été, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, finalement, tout est art. Mes bouts de polystyrène complètement bousillés, au moment où j'allais les foutre à la poubelle, ça commençait à se construire, c'est devenu une sorte de flèche, puis finalement, c'était bêtement raconter cette grosse tornade, alors que finalement, on s'attendait à un big bug, on a eu un gros coup de vent et on a passé le 31 décembre à la bougie, quoi, voilà. Donc, voilà l'histoire de cette tornade, en fait.
Mais c'est vrai que, pour en revenir à l'exposition, un film, c'est ça qui est pas mal, c'est que avec cette tornade, qui est donc en principe une tornade, c'est quelque chose de gigantesque, qui destructeur, et qui est conçu avec de rien, avec du vent. Ici, c'est conçu avec du cellophane. Donc un film, une matière de presque rien, avec des dizaines, des centaines, de milliers, je ne sais pas combien il y en a, de couches qui font la forme de l'objet qu'on voit en définitive. Donc c'est ça aussi, chaque fois, un film. Et je reprends toujours un peu cette même expression qui est de prendre toujours l'arbre qui cache la forêt. Et avec le travail de Guy Machoro, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave, je vais me répéter, c'est que on a toujours un objet très simple et qui cache en fait une large histoire de vie ou une anecdote générale, comme ici, c'est-à-dire que c'est un événement qui a touché tous les Français. Donc voilà, et tout ça au travers de feuilles.
Oui, puis moi je me rends compte que finalement j'ai toujours utilisé, bon, à part en peinture, parce que j'ai aussi une période récente autour de la peinture, mais pour particulièrement par rapport à ces pièces-là, qui sont des pièces que j'aime beaucoup, qui me tiennent vraiment à cœur. C'était vraiment d'utiliser des matériaux de récup, des matériaux pauvres, et c'était voilà, se laisser porter finalement par les choses. Ça me fait penser finalement quand j'ai découvert moi l'installation en regardant ces mots comme ça de Bertrand ou ces photos de Jim à cette chanson de Laurent Barden Oiseau qui raconte un petit oiseau comme ça qui survole les parkings et finalement sort d'un tout petit oiseau de rien quoi et puis qui a finalement ce regard et quand on se balade dans les textes de Bertrand, on est moi j'ai cette sensation d'être un peu bon, j'étais cueilli parce que avec le QR code en plus on a la musique donc là on est vraiment immergé dans son émotion et quand on est aussi en découverte en face des miettes de Christine Vadreau, c'est pareil, on se sent très très haut et finalement moi ces miettes je les ai vues d'ailleurs ça m'a confirmé puisqu'elle parle de gens hein, on est comme dans un survol et puis on arrive à faire des gros plans, on arrive sur des gros plans comme un petit oiseau qui se poserait devant ce rat crevé, enfin ce rat plat, ou ce petit papillon, finalement des choses qui sont effectivement infimes à côté desquelles on passe, ou ces trois petits chatons là qui se trémoussent, et donc Jim m'a raconté que c'était vraiment quelque chose de minuscule, planqué derrière une touffe d'herbe qui doit faire, je sais pas, tu me diras, 2-3 centimètres de hauteur, non ? C'est quelques centimètres. Oui, voilà, des choses comme ça, tellement minuscules, finalement, c'est ce petit oiseau de la chanson là qui m'a...
Voilà. Christine, est-ce que ça vous inspire les mêmes réactions ?
Oui, c'est vrai que mon travail... concerne vraiment aussi ce que j'appelle le recyclage du corps pictural, c'est-à-dire il y a une façon de j'utilise en fait des fragments de peinture qui vont être réutilisés mais pas forcément jusqu'à être broyés aussi fin pour en faire de la pâte, mais je garde le matériau sec à une certaine dimension, donc en fait il y a vraiment quelque chose de très matériel et puis ça témoigne aussi d'une certaine dramaturgie, ce que j'appelle dramaturgie picturale aussi, qui a un rapport avec la fragmentation du monde, de plus en plus atomisé, les nouvelles technologies, tout ça. Et tout ce rapport à la pixelisation des images et l'idée de bruit dans la matière. Enfin, voilà.
Merci beaucoup en tout cas d'être passé de façon téléphonique par cette émission. On va vous laisser vaquer à vos occupations en vous souhaitant une excellente journée. Puis nous, on va faire toute petite pause musicale et poursuivre avec bien les artistes qui sont là au plateau.
Elle a sur ses phalanges des rainures creusées, des commissures blanches. Sur ses doigts cannelés, elle a sur le front le passage des années, ses signes en doux rebond dessinés. C'est comme ça que je voudrais avoir des rides, avec quelques plis au bord des yeux. Si ce sont les marques du sourire, je pourrais me foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux. Elle a du sépia sur les tempes et sur la tête. Avant, C'est comme ça que je voudrais avoir des rides. Tant mieux si c'est gris sur mes cheveux. Je serai plus clair mais lucide en me foutant d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux. Il y a ce poivre et sel qui reflète sur elle. J'aime aussi maintenant. Le temps n'est pas toujours cruel. On peut lire dans ses prunelles. Aucun regret d'antan. Pourtant, elle a des gestes en errance, des déplacements modérés du style dans ses cadences, des mouvements saccadés. C'est comme ça que je voudrais changer de rythme, entendre mon pouls diminuer un peu, le présent pour me laisser vivre, même foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux. Rien à foutre d'être vieux, rien à foutre d'être vieux.
Vous êtes toujours sur BacFM, c'était donc Lise Van Duck à l'antenne il y a un petit instant, que vous retrouverez d'ailleurs sur les ondes de BacFM dans la prochaine émission. Ce sera après les vacances, lors de cette semaine où elle verra 5 concerts lui être proposés dans la Nièvre, en sachant que certains sont déjà complets. Je vous demande vraiment de vous dépêcher, je vous l'ai déjà dit, sinon il n'y aura pas de place pour pouvoir découvrir cet artiste également local, hein, je tiens à le souligner évidemment, puisqu'elle est née ici. On parlait à l'instant notamment d'un certain à crever dans cette exposition. Alors, avec beaucoup d'humour, on a philosophé quelques part, en tout cas pendant cette pause, notamment sur cette image que notamment Jim Rudy a mis en photographie. C'est l'un des artistes qui fait partie de cette exposition. Bonjour Jim.
Bonjour.
Alors, on n'a pas eu l'occasion encore de vous entendre, mais c'est le moment justement de pouvoir un petit peu nous parler de vous. C'est-à-dire que on sait que votre trace est plutôt le patrimoine en l'occurrence, et c'est aussi la photo, mais la photo qui est venue assez tardivement dans votre vie.
Oui, alors j'ai fait une carrière dans les musées de la Nièvre, hein, en tant que, enfin au moins les dernières années en tant que conservateur. Mmh. Et puis, oui, la photo est venue tard parce que bon, j'ai aucun goût pour la technique photo. C'est un truc qui même carrément a tendance à m'emmerder, quoi. Enfin, je sais pas du tout. Moi, j'aime bien, j'ai un appareil qui marche tout seul, donc voilà, c'est parfait. Oui, je m'y suis mis. Après les attentats de 2015, j'ai eu comme beaucoup de gens, je pense, une espèce de panne sociale. Et puis, je me suis dit que finalement, me rouler dans l'herbe pour photographier des papillons qui s'accouplent, c'était peut-être un moyen aussi d'échapper à tout ce merdier. Et donc voilà, je m'y suis mis. Et puis bon, voilà, c'est à force de faire du pain qu'on devient boulanger. Et puis j'ai à peu près réussi à faire les images que je voulais, sauf des images qui sont tombées un petit peu par hasard, comme ce fameux rat plat.
De son vrai nom.
Rat plat plat. Qui est une image que Christophe avait repérée et qui probablement m'a valu d'une certaine manière d'être convié au festin minimaliste de l'exposition. Là c'est pareil, c'est un petit peu ce que racontait Guy tout à l'heure. C'est une promenade en Normandie par le premier matin de l'année 2020, je crois, Il n'y avait plus. On s'est dit tiens, on va aller se promener quand même. Et au bout de deux virages, on est tombé sur ce rat qui avait visiblement vu passer sur lui énormément de voitures ou de tracteurs. Mmh. Et donc voilà quoi. J'ai fait une photo, mais vraiment sans volonté d'art, comme on dit. Et puis voilà quoi. Mais elle trouve sa place justement pas très loin des trois petits chats qui dansent. Alors est-ce qu'ils dansent justement parce que le rat, voilà.
Mais en même temps, c'est vrai que cette histoire de rap-là, l'image qui est prise peut-être sans grande volonté, et en même temps mixée à l'idée du format carré, ça fonctionne bien, parce que le format carré, pour moi, c'est le format du constat. Et donc, là, on a vraiment un constat extrêmement simple et sans chichi.
Oui, alors je sais pas ce que veut dire le mot l'adjectif minimaliste en art. Alors c'est effectivement on est dans le monochrome, enfin dans des expériences picturales extrêmes, mais c'est vrai que je tends de plus en plus vers le pas grand chose, enfin un signe un mot qui dit le livre d'une certaine manière.
Mais l'invisible, finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais peut-être qu'on ne voit plus aussi. C'est d'ailleurs cette image du rap-la-pla, c'est un peu ça. C'est on passe devant sans y faire trop peut-être attention et vous le mettez en valeur finalement.
Oui, alors c'est probablement, enfin c'est le rôle général de pas mal de d'artistes ou de pratiques artistiques, c'est de d'amener sur un plateau devant le public un certain nombre de d'émotions, de formes qui peuvent le séduire mais aussi le choquer, voilà, il y a un dialogue qui s'opère et effectivement dans ce cadre là montrer ce que plus personne ne voit ou ce que les gens voient pas ou voient mal, ça peut être effectivement un genre de résumé de la dizaine de photos qui sont présentées dans l'expo et qui interagissent parfaitement avec le reste des travaux, et ça c'est le côté magicien de Christophe, n'hésitons pas à le dire, qui a réussi à monter un puzzle avec pas mal de pièces où finalement on se demandait un petit peu à quoi ça allait ressembler tout ça, et c'est bien qu'on ait pu le découvrir au dernier moment.
Ça laisse pas mal de place aussi au public, au spectateur finalement, de s'imaginer un peu son parcours. Je trouve aussi cette exposition, elle est aussi là pour ça. Bertrand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du fait peut-être aussi d'avoir des mots au sein de toutes ces choses graphiques ou plastiques? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Déjà, c'est original. Quand Christophe m'a dit que je faisais partie de l'aventure, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à côté de peintres, de personnes qui font des installations.
C'est bien pour ça que je pose la question.
Voilà, très bonne question, Gaëtan. Et en fait, en découvrant l'exposition il y a une semaine de cela, je trouve que les mots ont vraiment leur place. J'ai eu l'occasion de dire qu'effectivement, pour 10 mots exposés, il y en a une centaine qui sont enlevés à chaque fois. Donc c'est des miettes qui restent. Et je trouve la correspondance avec le travail de Christine qui est intéressant. Ouais. Ces projections de miettes de peinture qui paraissent être projetées comme ça de façon tout à fait aléatoire, mais il y a un énorme travail derrière. Tout ce qu'on ne voit pas, son travail qu'on ne voit pas, qui est gigantesque. Et le rendu paraît tellement simple, il y a tellement de réflexions derrière. Je trouve que c'est exactement la même analogie avec les mots. Des mots qui s'empilent, des mots qui sont jetés à terre, comme le propose Christophe quand on rentre dans la scénographie. Eh bien, je trouve que même s'ils sont posés par terre, ça paraît évident, ça paraît comme ça infime, et il y a toute une réflexion qui se met en place derrière. Et oui, je trouve que tout se marie très très bien. Le triptyque de Christine, quand on rentre, là, ce grand triptyque avec ces espèces d'ondes magnétiques qui partent du centre et qui semblent arriver vers vous, ben moi, je m'y retrouve aussi dans les mots, puisque des mots. Dans la poésie, quand vous parcourez un livre, les mots sont comme ça, posés sur une page, semblent figés. Mmh. Et en fait, quand on se laisse prendre par la magie de la poésie, ben, ils rentrent en vous, ils pénètrent en vous, ils ont trois dimensions. Et du coup, avoir mes mots en trois dimensions, je trouve ça assez exceptionnel. Et qui donc viennent flirter, viennent caresser, viennent entrecroiser d'autres œuvres. Ne fais pas ces gros yeux, Jim, quand je dis qu'ils viennent caresser d'autres œuvres. Voilà, juste qu'on a crevé de Jim, où je trouve que, effectivement, ce petit clin d'œil sur des choses qui paraissent anodines, ou comme la photographie sur l'espèce de, pas de palissade, mais en couleur, là, que je trouve ça très très joli, ou alors la couverture de survie qui est agitée par le vent, ou cette espèce de rouleau là sur Hiroshima. Eh bien tout ça, effectivement, le public qui va venir voir l'exposition, il va y trouver le sens qu'il a envie de trouver. C'est ça qui est bien aussi.
Mais c'est vrai, ce que ne dit pas non plus Bertrand Chevalier, c'est que les textes en fait qui sont choisis, ceux qui sont imprimés au mur sont de la poésie. Et puis il y en a un en fait qui a d'ailleurs été enregistré avec les micros dans lesquels on parle ici à Bac FM. Il y en a un qui est enregistré qui est une nouvelle. Et que ce soit la nouvelle ou bien la poésie, les textes sont toujours des chemins en fait intérieurs. Et donc finalement, moi j'aime bien, parce que j'ai l'impression que c'est comme un grand voyage, un grand tour du monde sans bouger. En fait, c'est un chemin intérieur, c'est à un moment donné, c'est ce qui fait qu'on change et qu'on est, on n'est plus le même en étant toujours soi. Et donc tous ces chemins-là, j'avais envie que ce soit un petit peu matérialisé par justement le poème qu'on a imprimé au sol et qui fait le lien avec physiquement dans l'exposition avec tous les autres. Et ce poème qu'on trouve au sol, mais aussi il y a des extraits de ces poésies qui ont été mis à des endroits clés et qui font effet miroir à côté des œuvres, voilà. Et donc ça permettait de faire dialoguer en fait toutes les œuvres. Et c'est ça qui est important. C'est ce que disait tout à l'heure Gaëtan, c'est que chacun peut y faire son chemin. En fait, il y a plein de pistes. Et puis prenez le premier fil rouge. C'est le cas de le dire, parce que le texte qui est imprimé est en rouge. On prend le premier fil rouge qui nous arrive, et puis on se laisse emmener, ouais, effectivement.
Ouais, c'est exactement ça. Une exposition autour de l'invisible dans un monde actuel rempli d'images, c'est quand même un sacré challenge. Enfin, en tout cas, c'est une sacrée gageure, je trouve. C'est un pari un petit peu osé.
Oui et non, c'est un peu comme les adolescents, ils ont toujours envie de dire le contraire de ce que leurs parents proposent. Donc on est dans un monde où on nous impose toujours des choses très très catchy comme ça, qui attire forcément toujours l'œil, où on nous inonde d'images, et à un moment donné, je trouve que c'est bien de prendre le contre-pied et de prendre finalement une certaine distance. C'est un peu comme quand on regarde les îles que représentent les miettes des peintures de Christine Vadraud, on est obligé de partir de loin, de haut. C'est l'histoire du petit oiseau tout à l'heure de Guy. Hein. C'est voilà, on doit circuler un petit peu et prendre un petit peu de temps. C'est ça que j'aime bien faire, parce que finalement dans les expos, elles servent à ça. Hein. C'est toujours un des petits moments, des espaces Exactement. Hors du temps.
Un petit peu pour se perdre. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a bien retenu l'attention. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qu'il connaît, sinon tu ne pourrais pas t'égarer. C'est quand même quelque chose de fort, parce que finalement, c'est vrai que là, le principe est d'essayer de vous perdre votre imagination à vos publics. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à découvrir cette exposition. Et cette phrase, je l'ai découvert pas très loin des œuvres de Guy Machaud, notamment. Je crois qu'il y a aussi une histoire assez forte quand même, notamment en parlant par exemple du Japon. Je crois que j'ai cru découvrir une histoire assez incroyable.
Oui, ça s'est fait en 1996. J'étais au Japon et c'était aussi une série de circonstances très hasardeuses. Je me suis retrouvé au Japon avec une carte bleue avalée. Enfin, donc je devais rejoindre des artistes à Kyoto, mais j'étais à Kyoto. Puis finalement, les circonstances ont fait que le stop n'ayant pas fonctionné, j'y suis allé à pied. Et puis de fil en aiguille, c'est un chemin initiatique qui a fait que ça a donné ce rouleau de terre qui est de la terre collée sur une bande de tissu durant une marche de 46 jours reliant Tokyo et Hiroshima. Alors donc voilà, pour moi c'est ce 20e siècle, le siècle plus terrible que l'humanité ait connu, hein, c'est l'âge des ténèbres. Et finalement toute cette exposition, pour moi aussi le film, ça a à voir avec cette association d'idées avec le silence en fait. Alors il y a cette phrase que j'ai notée de Bertrand qui parle de silence coupable. Il n'est Nul homme capable d'embrasser l'immensité de ce que tes yeux ont à offrir au silence coupable. Et finalement, c'est comme des très petites clés, finalement. Ça, par exemple, ce texte-là qui m'a cueilli, ce rap-là, et finalement, ces petits éléments-là suffisent à faire comprendre à donner finalement des clés, parce qu'il n'est pas question de dire au lecteur ou au regardeur enfin ce qu'il pense, mais de lui donner juste une piste, finalement ça suffit pour comprendre que là on a la trace de tout un voyage qui en fait est un voyage symbolique. Alors ce rouleau de terre là dont tu parles, Gaëtan, ça parle de la catastrophe, mais en même temps, ça donne une idée de direction, et finalement, c'est un signe de paix. Voilà.
Il y a toujours beaucoup d'interprétations. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Jim, notamment au travers des photos. Il y a des événements déclencheurs dans les vies qui font que on s'engage dans des voies, qu'elles soient artistiques ou autres, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on le retrouve pas mal dans au travers de vous quatre, de vos quatre artistes en l'occurrence, quelque chose de vraiment très très lié à la société. Je pensais pas, en découvrant l'exposition, que ça soit aussi fort, et pourtant un rapport avec notre société actuelle est très très fort. Je trouve que c'est vraiment un peu le mot d'ordre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que vous avez senti cette même chose?
Oui, alors moi j'ai une espèce d'ambition comme ça aussi, de notamment dans les photos de d'animaux, hein, d'oiseaux ou d'insectes, de papillons, c'est ma lutte écologique moi. Les écolos globalement m'emmerdent un peu, enfin beaucoup. Et l'idée, c'est quand même de montrer des papillons qui sont c'est des merveilles de la nature, enfin c'est le genre de truc qui fait croire en Dieu, quoi. C'est et dire aux gens, regardez-les, ça va peut-être pas durer, faites gaffe à ce que vous faites, quoi. Et j'ai la faiblesse de penser que ce genre d'image peut avoir un vrai impact, beaucoup plus que des kilomètres de discours où on nous promet de nous flageller si on recycle pas les bouteilles en plastique.
N'oublions pas, voilà, de les contempler avant qu'elles deviennent vraiment invisibles, en fait, tout simplement.
C'est absolument, avant qu'il soit trop tard.
Tout à fait. Christophe, cette exposition, il s'avère que j'ai ouï dire que cette exposition pourrait peut-être s'exporter. Je trahis peut-être un secret, je ne sais pas.
Oui. C'est un secret trahi.
Bon, voilà. Alors, donc, on n'en parle pas. On n'en parle pas.
Non, en fait, effectivement, il y a l'idée...
Je tiens à dire qu'on me l'a soufflé, qu'on me l'a conseillé.
D'accord. Mais c'est parce qu'en fait, on est vraiment au début des choses, et on n'est pas tout à fait certain que ça va se réaliser. Mais moi, je vais tout faire pour que ça puisse effectivement se faire. Il y a... on est jumelé, je pense, avec Mayence, c'est ça?
Hein? Coblence,
pardon. Voilà, il y a une collaboration avec l'Allemagne possible pour présenter en fait cette exposition là. Alors bon, alors moi j'en parle pas encore trop maintenant parce que bon, comme toujours, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, est-ce qu'il y aura les financements possibles pour pouvoir faire les choses? Est-ce que le lieu va pouvoir accepter l'exposition? Enfin, le lieu est plus petit. Je pense qu'il est très beau. Et donc, ça va demander une adaptation. Et ça, c'est tout le travail qui doit se faire là, dans ces semaines. Mais pour moi, c'est toujours une... j'adore quand les expositions que je mets en place peuvent avoir une autre vie que celle que je leur propose à la Maison de la Culture. C'est déjà super bien parce qu'on est quand même dans un lieu magnifique. Il y a des moyens pour faire cette exposition. Le lieu est grand, le bonbon, blablabla, super. Mais à partir du moment où on peut le faire vivre ailleurs, je trouve ça génial parce que ça ne marche pas pour toutes les expositions.
C'est peut-être le volet supplémentaire de tout ce travail qui a été mis en place depuis plusieurs années, notamment avec toi, qui pourrait justement atteindre cet objectif, peut-être de pouvoir délocaliser, exporter certaines expositions. Oui. C'est un peu une volonté.
Oui, c'est une volonté extrêmement claire. Ça prend un peu de temps. On a ce genre de projet sur d'autres expositions qu'on a déjà réalisées et qui ont du mal un peu à se concrétiser. Mais Oui, bien entendu, parce que ce qu'on a montré finalement en primeur, puisqu'on crée les expositions ici à la Maison de la Culture à Nevers, je suis très heureux de pouvoir transporter ces expositions et donner ça au regard d'autres publics et de voir finalement peut-être d'autres réactions.
Très bien, on a fait, je crois, le tour de pas mal de choses. Est-ce que certains d'entre vous ont encore peut-être des mots à dire, des choses à ajouter? Alors les mots de Bertrand, bon, ils sont encore présents à la maison, mais et puis ils vont rester encore jusqu'au 5 avril, puisque c'est la date jusqu'à laquelle vous allez avoir l'occasion de pouvoir découvrir cette exposition. Que vous veniez au spectacle ou que vous soyez juste de passage devant notre grand bâtiment, n'hésitez surtout pas à pousser les portes pour découvrir ces œuvres dont on a parlé il y a un instant. Et je tiens à dire justement qu'il y a aussi notamment une petite brochure,
faut le dire,
pour vous aider à découvrir cette expo.
Oui, je suis très content parce que c'est une collaboration avec le département qui nous l'imprime, etc. Et ça nous fait un beau document finalement à collectionner, hein, parce qu'en fait ce sont des numéros et tout. Celui-là c'est le premier number one.
Collector.
Voilà, c'est le collector avec le dernier, mais j'espère qu'il arrivera tardivement. Et voilà, non, ça, je remercie cette collaboration. Je suis très content de que ça sorte enfin en réalité.
Et puis, j'y pense, est-ce que certaines œuvres sont vouées ensuite peut-être à être dans l'artothèque ou pas? De ce qu'on en a là sur cette
oui, 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 comme finalement à chaque fois, mais quand c'est un peu possible, tout n'est pas toujours envisageable. Hein. Par exemple, difficile d'avoir dans l'artothèque les textes de Bertrand Chevalier.
Peut-être hein. Gravé grâce à l'exposition Stamparé qui aura lieu juste après. À la rigueur, graver les textes de Bertrand Chevalier, ce serait extraordinaire.
Ah, ça, c'est une autre collaboration. Il faut encore la mettre en place. C'est vraiment le moment des, des révélations.
Bon. En tout cas, on vous remercie tous les trois et puis Christine également au téléphone d'être venue parce que du coup, je crois que c'est intéressant. On a pu, outre vos œuvres d'art, découvrir surtout un petit peu les messages qui sont inscrits derrière et qui font partie intégrante de ce qui vous anime au jour le jour. Donc n'hésitez pas à cette exposition donc en place jusqu'au 5 avril. Avant de nous quitter, je voulais aussi rappeler des petits événements assez importants, notamment je vous rappelle que la journée du 25 février entrée dans la danse autour du travail de la compagnie Lamento et de Silver Lamotte notamment a toujours lieu évidemment à partir de 11h. Vous pouvez encore vous inscrire pour ce format assez particulier d'une journée de découverte de cette compagnie, de son travail, notamment autour de la création qui sera réalisée en décembre 2023 notamment par des danseurs et danseuses amateurs. Collaboration mise en scène et chorégraphiée par Silver Lamotte. Donc c'est le premier rendez-vous après notamment cette soirée rouge du mois d'octobre où on a pris un petit peu la température, si j'ose dire, notamment. On a déjà un certain nombre de personnes, une vingtaine, qui seront présentes sur cette journée. Donc une journée découverte, présentation du travail de la compagnie, des extraits, une présentation du projet qui va avoir lieu, donc qui va se mettre en place sur tout l'automne jusqu'à la création le 9 décembre 2023. Et puis le soir, on propose aussi à ceux et à celles qui le souhaitent, notamment d'assister au spectacle Golden Days pour boucler un petit peu cette journée axée sur la danse et sur la découverte de la danse. Donc vous pouvez contacter ma collègue Bérénice 03 86 93 09 24. N'hésitez pas, il reste encore quelques places et puis on attend un maximum de personnes pour cela. Dernière information, vous le savez certainement, Echo, Sly Johnson, le spectacle est annulé, puisque l'artiste s'est blessé, donc le spectacle de demain soir n'aura pas lieu. Je tiens à vous le rappeler, ne vous pointez pas, parce que sinon vous allez vous casser le nez sur nos portes vitrées, il n'y aura personne pour vous accueillir, j'en suis désolé. Et ce spectacle, sera peut-être reporté. Et dernière chose, les visites théâtralisées de samedi, il reste encore quelques places à 14h et à 16h30 et surtout à 14h. Les visites théâtralisées font partie maintenant du patrimoine de la maison de ce projet incroyable.
C'est incroyable, je sais pas.
Bien d'accord.
Ici autour de la table, il y a quelqu'un qui a fait la visite.
Je les ai fait deux fois.
Non, mais il faut le faire.
C'est remarquable.
C'est une folie incroyable. Bon, les gens pensent qu'on explique ce que fait la maison, mais pas du tout.
Absolument
pas. On est parti dans un spectacle grandeur nature avec comme décor l'ensemble de la maison de la culture et surtout avec des endroits qu'on ne connaît absolument pas, tout à fait insoupçonné.
Deux artistes complètement déjantés et l'occasion de découvrir le bâtiment sous un autre œil justement, puis de découvrir justement l'invisible de ce bâtiment, toutes les pièces et les endroits que les gens ne connaissent pas et qui représentent tellement dans l'histoire de ce bâtiment et de l'histoire de la culture de manière générale. Donc n'hésitez pas. 3 euros, c'est vraiment pas cher. Pour moi,
c'est
ça vaut vraiment le coup.
Pas cher. Allez, on achète.
D'accord. Voilà. il faut absolument y aller. 14h et 16h30, vous vous adressez au 03 86 93 2x09. Julie et Lucille seront ravis de vous proposer des places encore disponibles. Le site internet www.maisonculture.fr et vous avez les informations, spectacles, expositions et tout ce que l'on vient d'évoquer, notamment autour de cette table. Merci encore Jim, merci encore Bertrand, merci encore Guy, et puis Christophe évidemment pour votre présence aujourd'hui. Je pense que ça a donné vraiment envie à tout le monde de venir découvrir l'exposition. On va se quitter en musique avec à nouveau Lise Van Dyck, que vous pourrez donc retrouver en concert la semaine de rentrée après les vacances de février. Portez-vous bien, soyez curieux et surtout sortez. À très bientôt, au revoir à tous.
Il y aura du léger.
Dans le creux du sable.